recommander Jean Sotena, Seigneur, celui que tu as choisi pour nous apporter cette parole, cette prédication ce matin. Comment que tu le diriges par ton esprit saint. Nous puissions être attentifs aussi à ta parole, que tu ouvres notre cœur, Seigneur, notre intelligence par ton esprit saint, pour que nous recevions efficacement cette parole, que nous l'appliquions aussi dans notre vie de tous les jours. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous. Je m'appelle donc Jean-Claude Marianos, je suis d'origine grecque de par mon père, je suis né en France d'une mère française. Ça fait 47 ans que le Seigneur m'a sauvé dans sa grâce. J'ai exercé un ministère pastoral pendant 30 ans à l'église de Paris Nation, avec un ministère évangélique itinérant. Et ça me rappelle de beaux souvenirs. Et depuis 2 ans, je suis détaché de l'église de Paris Nation pour exercer mon ministère itinérant. Habitant à quelques kilomètres de Palaiso et connaissant l'église depuis 47 ans pratiquement, donc avec mon épouse qui m'accompagne ce matin, alors nous nous joignons à vous. Elle un peu plus, mon épouse un peu plus régulièrement que moi, parce que moi je réponds aux invitations que le Seigneur permet qu'on m'adresse, et donc vous n'allez pas me revoir souvent là, parce qu'à chaque fois je suis invité à droite à gauche. C'est la période de Noël, et c'est la période où véritablement nous sommes amenés à parler de notre espérance. Ce qui est frappant de nos jours, c'est de constater le fait que Noël est vidé de sa substance originelle, puisqu'on parle de fête commerciale, de faire la fête, etc. Et j'ai même lu dans des milieux chrétiens, expliquant que Noël, c'était un moment de famille où on pouvait communier ensemble, partager, prendre le temps, se reposer. Mais dans ce texte que j'ai lu, à aucun moment, il n'est question du véritable message de l'Évangile, de la raison même de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Simplement, dans ce texte, entre guillemets chrétien, il est indiqué, oui, je me souviens que ma grand-mère me lisait l'Évangile dans mon enfance, et ça s'arrête là. Nous allons donc parler de l'expérience chrétienne. Alors, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a inspiré à mon frère qui présidait ce matin, parce que c'est pratiquement le même texte qui vous a été lu. Et je vais le développer sous un autre angle, fort heureusement. Mais avant, j'aimerais rappeler ce que l'apôtre Paul exprime en Éphésiens, chapitre 2, verset 12. Il dit aux chrétiens de l'époque, et donc à chacun d'entre nous aujourd'hui, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Sans espérance. Alors vous connaissez tous cette citation. L'espoir fait vivre. Alors comme vous le savez, c'est de Paul Valéry. Simplement, la citation elle est tronquée parce que Paul Valéry a écrit textuellement « L'espoir fait vivre, mais comme sur une corde raide. » C'est-à-dire que vous et moi, quand nous n'étions pas chrétiens, quand on ne connaissait pas le Seigneur, on était en permanence en recherche d'équilibre. Parce que nous sommes sur une corde raide quand nous ne connaissons pas le Christ. Pas de certitude absolue, pas d'amour dans notre cœur qui se manifeste régulièrement, rien, simplement des idées comme ça qui passent, qui partent et qui changent et autres. C'est André Malraux qui a écrit « Un monde sans espoir est irrespirable ». Et puis, Victor Hugo, dans son ouvrage 93, il a écrit « L'espérance serait la plus grande des forces humaines si le désespoir n'existait pas ». Alors, quelles sont plutôt les caractéristiques de l'espérance chrétienne? Qu'est-ce que nous avons à partager avec ceux qui nous entourent, aussi bien chrétiens entre chrétiens que chrétiens vis-à-vis de ceux qui ne le sont pas encore? Alors, je vais vous relire le texte qui a été lu ce matin. Un petit peu plus long, hein, puisqu'on va être en 1 Pierre chapitre 1, les versets 3 à 9. Et puis je détaillerai quelques aspects ce matin de l'espérance chrétienne. L'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a donc écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Notre espérance est donc une espérance vivante. Alors une espérance vivante, ça se vit. Vous savez, on rencontre des tas de chrétiens dans la rue, des gens qui disent « je suis chrétien, quelle est votre espérance ?» Je ne sais pas. Avez-vous une relation personnelle avec Dieu ? Non, je crois, je fais des choses, je pratique, etc. Mais ça, ce n'est pas une espérance vivante. C'est avoir une religion. Notre espérance est vivante parce que Jésus-Christ est vivant. Notre espérance, c'est le Christ. Quand on parle d'espérance, la personne qui concrétise l'espérance et qui s'appelle l'espérance d'ailleurs, c'est le Christ lui-même. Le Christ étant vivant, assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes et habitant dans nos cœurs, il est évident que notre espérance est vivante. Et je me souviens quand j'étais dans le monde du travail, parce que j'ai quand même, sur 47 ans de vie chrétienne, j'ai passé 24 ans dans le monde du travail. J'étais le seul chrétien avec nouveau dans l'entreprise où je travaillais. Et mes collègues étaient tous des marxistes, des trotskistes, de la lutte communiste révolutionnaire, etc. J'étais entouré d'un tas de personnages très très intéressants, des gars engagés, des disciples. Bon, ils étaient disciples pour autre chose, mais c'était des gens très intéressants. Et alors ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, Jésus-Christ est vivant. Et alors moi je leur disais, écoutez, j'ai parlé avec lui ce matin. Il m'a parlé. C'est complètement fou et tout. Mais je dis, non, je suis fou pour Christ. En attendant, voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Le Christ est vivant, et c'est mon espérance est vivante. Et la vôtre? Ah, c'est la lutte des classes, c'est la révolution. Je leur disais, ça vous satisfait vraiment? On espère. Et c'est pathétique parce que ce sont des gens très engagés, des gens sérieux. Quand je les voyais se lever à 5h du matin pour distribuer leurs tracts à la sortie des métros, je me disais, mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, les chrétiens, hein? Et eux, ils y étaient là, par tous les temps. Hiver, été, la pluie, tout ce qu'on veut. Donc Jésus-Christ est vivant, c'est ce qui fait notre joie. C'est lui notre espérance. Ensuite, notre espérance, elle est vivante parce que nous avons été régénérés. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que la régénération, c'est ce qui nous permet de vivre la vie chrétienne. C'est ce qui nous permet d'être en accord entre ce qu'on comprend des Saintes Écritures, ce que l'on sait, ce que les Saintes Écritures nous apprennent, et ce que nous vivons. Parce que je connais beaucoup de chrétiens qui savent des choses, mais qui ne les vivent pas. Alors ils ont une perte de puissance dans le témoignage. Ils n'ont pratiquement pas de témoignage d'ailleurs. Et le christianisme biblique a cet avantage extraordinaire et unique, c'est qu'il y a un accord entre ce que les Saintes Écritures nous enseignent et ce que le Saint-Esprit nous permet de vivre. Notre espérance est vivante parce que nous sommes non seulement justifiés, c'est-à-dire que nous avons reçu le pardon de nos péchés, mais nous avons été régénérés, c'est-à-dire que nous avons reçu la vie de Christ dans nos corps mortels. Nous avons la capacité de ne pas pécher. Et c'est ce qui fait toute la différence. Notre espérance est vivante parce que le Christ nous a délivrés de la puissance de la mort et de la puissance du péché. Et donc, on arrive le matin, je me souviens, au travail. Un jour, j'ai un collègue, il me dit, salut Jean. Je lui dis, salut, comment ça va? Il me répond, aussi bien que toi. Alors, je lui dis, excuse-moi, ça m'étonnerait. Il me dit, pourquoi? Ben, je lui dis, écoute, t'es perdu, je suis sauvé. Je lui dis, comme ça. Alors, il me fait, t'es perdu, je suis sauvé. Bonne journée. Et puis, je m'en vais. Et le gars, je l'ai retrouvé quelques années plus tard, on a travaillé ensemble dans le même service. Il m'a dit, mais c'est ça qui m'a étonné. C'est cette joie, tu arrivais au boulot, tu étais joyeux. J'ai dit, vous êtes joyeux quand vous arrivez au boulot. Hein. Parce que franchement, le Christ vivant, la régénération, on peut commencer une journée nouvelle. Chaque jour est un jour nouveau, parce que chaque jour, on le vit avec le Seigneur, et le Seigneur est éternel, c'est inépuisable cette relation avec lui. Et alors, il a lu la Bible, etc. Et puis il a quitté l'entreprise, j'ai jamais de nouvelles, mais je me dis qu'on va sûrement le retrouver dans la gloire, celui-là. Régénéré. Vous savez, on parle beaucoup du clonage. Hein, on va même cloner dans quelques. Enfin, ça a déjà commencé, puis ça va devenir de plus en plus souvent. Mais qu'est-ce que Dieu fait? C'est un clonage. C'est un clonage par le baptême du Saint-Esprit à la conversion. Voilà que c'est la vie de Christ qui vient habiter dans nos corps mortels. C'est un clonage. La vie de Christ, la nature de Dieu vient en nous. C'est un vrai clonage. C'est le clonage divin dans des corps mortels. Alors, vous savez, quand je vois ce que les êtres humains sont capables de faire, ils vont nous cloner. Enfin, moi, je ne sais pas, je serais peut-être mort d'ici là, mais les plus jeunes, vous risquez d'être clonés. Ça va être quoi? Des clones perdus, des clones pécheurs, des pauvres clones, quoi. Ben oui. T'as dit, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un clonage pour l'éternité. Il nous donne sa nature divine, on est sauvés. On vit de la qualité de la vie de Christ. Et puis on a cette espérance parce que, oui, nous la vivons, cette espérance. Et évidemment, l'espérance est vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Nous savons, comme Mamie nous l'a rappelé ce matin, que nous aussi nous avons ressuscité. C'est une certitude, c'est une évidence. Alors quand mes collègues militants d'extrême gauche me disaient, mais comment tu peux être sûr? Je disais, mais vous imaginez, vous n'arrivez pas à imaginer ce que c'est. Rencontrer le Christ, avoir une relation vivante avec lui, le connaître personnellement, il vit en moi. Alors, eux, ils avaient des idées, vous savez, c'est plein d'idéologies, ils vivaient d'idéologie. Ils leur disaient, mais vous n'avez pas la vie. Et puis à certains, je leur disais, mais écoute, tu milites, tu fais des tas de trucs, regarde comment tu vis chez toi, regarde comment tu vis au boulot. T'es en bisbis avec les gens, tu te mets en colère avec ta femme. Vous aussi, un jour, j'avais assisté à une rencontre de syndicalistes parce qu'ils voulaient que je fasse partie de leur affaire. Alors j'ai dit, oh, ben, je vais bien regarder. Et puis je voyais, ils se disputaient les uns les autres. Je leur ai dit, mais écoutez, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé quelque chose de bien meilleur. Alors ils m'ont dit, mais je comprends pas, comment se fait-il qu'un gars intelligent comme toi soit pas avec nous? Ben, je leur ai dit, justement, parce que je suis intelligent. J'ai trouvé le Christ, alors c'est quand même bien supérieur à tout ce que vous pouvez me partager. Mais néanmoins, j'ai beaucoup de respect pour eux. L'espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Libéré de l'esclavage de la mort. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 2, versets 14 et 15, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et les personnes qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Christ, sont dans la servitude, l'angoisse de la mort. On a posé il y a bien longtemps à Carla Bruni, avant qu'elle n'épouse notre ancien président de la République, on lui a posé la question suivante. Quelle est votre plus grande peur?
Elle a répondu, la mort. Deuxième question, de quelle manière aimeriez-vous mourir? Et elle a répondu, vivante! Mais elle a raison. Elle a raison, on va mourir vivant. D'ailleurs, forcément, tout le monde va mourir vivant. C'est le corps qui part dans la tombe. L'âme et l'esprit sont éternels. On va tous mourir vivant. On va tous ressusciter, d'ailleurs. Selon l'enseignement des Saintes Écritures. Il y en a qui vont ressusciter pour l'enfer, il y en a qui vont ressusciter, nous, pour la vie éternelle. Enfin, on aura la rédemption de notre corps, on est déjà sauvé. Quand nos yeux physiques vont se fermer, on ira directement en présence du Seigneur. Mais notre corps va nous rejoindre ensuite. Vivante. Vous vous rendez compte ce qu'elle exprime, ou ce qu'elle exprimait à l'époque? Mourir vivante. L'angoisse de la mort. L'expression du désir de vivre éternellement. Parce que moi, ce que je lis là, dans sa réponse, c'est l'expression, elle aurait pu dire, je voudrais la vie éternelle. Vouloir mourir vivante, c'est ça. Et on a tous envie de ne pas mourir, ou en tous les cas, de vivre éternellement en présence du Seigneur. C'est pour ça que Jésus disait, je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est cela notre espérance. Et pour avoir accompagné, parce que étant dans le ministère, ayant quitté donc le travail séculier, des collègues m'ont demandé de participer à des offices d'anciens collègues décédés ou des membres de leur famille. Et je voyais le désespoir de ces familles devant. D'ailleurs, c'était assez troublant déjà à l'époque, c'est que les gens assistaient à la cérémonie, l'aspect un peu spirituel qu'on m'avait demandé de développer, mais certaines de ces personnes n'osaient même pas s'approcher de la tombe. C'était de voir sur les visages d'angoisse. Et je me disais, mais moi, en tant que chrétien, je suis affranchi de tout cela, délivré. Depuis ma conversion à l'âge de 23 ans, je suis délivré de tout ça. Et je peux envisager, non pas avec joie de partir, de quitter ceux que j'aime, mais de savoir où je vais, d'être sauvé. Alors, c'est aussi une espérance qui sauve. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 8, il les dit, mais nous, les chrétiens, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. L'acquisition du salut. Alors, bien aimé, lorsqu'on se pose des questions sur la certitude de notre salut, quand on regarde la faiblesse qui parfois se manifeste chez moi, quand je regarde ça, je me dis heureusement qu'il y a cette parole de la grâce de Dieu. Je t'ai sauvé pour l'éternité. Et je t'ai sauvé pour que tu vives une vie de régénération, une vie victorieuse. Et quand je suis déçu par moi-même, et écœuré par ce que je découvre dans le fond de mon cœur, je me dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu m'as destiné à l'acquisition du salut, une bonne fois pour toutes, et non point à ta colère. C'est une espérance extraordinaire qui nous délivre, qui nous permet de rentrer en contact avec n'importe quelle personne pour lui partager ce message unique. Le message des Saintes Écritures et de ce que nous vivons en Christ. Notre nom est écrit dans le livre de vie. En Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15, il est dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. » Vous connaissez ce cantique? Vous connaissez ce cantique tiré de ce verset de l'Apocalypse? « Je vis un trône blanc, tiradadada. » Ah, bon, vous êtes trop jeune dans la foi, alors. Bon, une campagne d'OM à Reims pour Christ, en 70. J'ai écouté ce cantique, je me suis dit, ça c'est beau. C'était le verset de l'Apocalypse. Alors, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Sur quoi est-ce que nous allons être jugés, vous et moi? Sur notre foi en Christ? L'œuvre que Dieu attend, c'est que nous croyons en Christ. C'est ce que Jésus dit dans l'Évangile selon Jean. Ce que mon Père désire, l'œuvre que vous voulez faire pour Dieu, ben c'est de croire en moi. Et quand nous croyons en Christ pour être sauvés, quand nous croyons en Christ pour vivre notre vie de plénitude dans le Saint-Esprit, ben nous sommes exactement dans les œuvres que Dieu désire et qu'il a préparées d'avance pour nous. Mais si nous ne sommes pas en Christ, nous serons jetés dans les temps de feu. La question qu'il faut vous poser ce matin, et que je vous pose au nom du Seigneur, votre nom est-il inscrit dans le livre de Dieu? Avez-vous cette certitude dans votre cœur? Pouvez-vous dire silencieusement à votre âme et conscience, oui, mon nom est écrit dans le livre de vie, je suis sauvé. Si vous ne pouvez pas dire cela, dans le secret de votre cœur, il faut vous convertir au Christ. Il faut que vous veniez à votre Sauveur pour être véritablement sauvé pour l'éternité. À chacun de vous de répondre pour lui-même. C'est Jean-Paul Sartre qui a écrit dans Le Diable et le Bon Dieu en 1951. Voulez-vous que je vous dise pourquoi vous n'avez pas peur de la mort? Chacun de vous pense qu'elle tombera sur le voisin. Eh bien non. Un jour nous serons face à cette situation. Et là, nous serons ou sauvés ou perdus pour l'éternité. Ensuite, c'est une espérance que nous possédons. Vous savez que le terme grec espérer, c'est une certitude. C'est pas comme chez les Normands. C'est un Normand. Vous dites à un Normand, est-ce qu'un tel va venir te voir cet après-midi? Il va vous répondre, peut-être bien oui, peut-être bien non. Mais c'est pas ça dans le grec. Dans le grec, c'est une certitude. Je sais. C'est une espérance que nous possédons. Et c'est l'Épître aux Hébreux qui le dit au chapitre 6, verset 17 à 20. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Extraordinaire le chrétien. Alors pour ceux qui ont été à Saint-Lunaire, comme moi j'ai eu cette chance-là, et de pendant pas mal d'années pour encadrer du temps spirituel les rencontres avec les adolescents, une fois avec les préados, puis ensuite avec le troisième âge, et les cheveux blancs, on m'a décalé de section. Mais c'était très intéressant de voir tous ces âges, mais je me souviens des ados. Et je faisais de la sécurité avec un dénommé Loïc Caro, toutes les après-midi sur des zodiacs, là. On était chargé de protéger la flottille. Et je me souviens quand on était, quand on faisait des compétitions avec les jeunes pour des petites régates, là, nous, avec le radeau, on était obligé de jeter l'ancre pour rester fixe, pour regarder bien la ligne de départ, si personne ne trichait, etc. Et quand je lisais ce verset, je me disais, bon, en navigation, on tire vers le sol, hein, on va chercher l'ancrage vers le bas. Mais nous, on est ancré vers le haut. Alors c'est quand même extraordinaire. Notre ancre à nous, c'est Dieu qui l'a lancé dans nos cœurs, en Christ, par la nouvelle naissance. Ça y est, on est accroché pour toujours. Hein. J'ai remarqué autre chose aussi, c'est les bateaux. À moins qu'il y ait des courants contraires, mais si vous voulez savoir dans quel sens le vent souffle, regardez les bateaux. Les bateaux à l'ancrage se mettent toujours face au vent. À moins qu'il y ait des courants contraires. Alors, ce qui est remarquable, c'est que être face au vent, c'est ce que notre espérance nous permet de vivre. Face au vent de l'épreuve. Pourquoi ? Parce que, comme le dit l'apôtre Paul, nous pouvons regarder aux choses non pas simplement visibles, parce qu'elles sont passagères, mais le fait qu'on ait un ancrage dans le ciel, on a une double vue. Et on regarde aux choses invisibles parce qu'elles sont éternelles. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui a un double foyer, dans le fond. Il regarde à son niveau pour venir en aide à son prochain, et puis il regarde en permanence au ciel, on a une double vue permanente. Et c'est cela que l'apôtre nous dit, on la possède cette espérance, parce que c'est Dieu qui a jeté l'encre du Christ dans nos cœurs. Et Dieu ne ment pas. Et c'est pour ça que notre espérance aussi, elle est vivante, et tellement sécurisante. Et puis pour terminer, c'est une bonne espérance. Pourquoi ? Parce que en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 à 17, nous lisons que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. C'est une bonne espérance parce qu'elle nous console. Et quand on a besoin d'être consolé, c'est évident que les vérités chrétiennes sont là pour apaiser nos cœurs et nos âmes et nourrir notre foi. Mais en même temps, c'est une espérance qui nous pousse à l'action. Il n'y a pas de chrétien qui ne soit pas dans l'action, dans le service pour Dieu. Ça n'existe pas dans le sein de l'Écriture. Parce que notre espérance va automatiquement nous pousser à agir pour Christ, de toutes sortes de manières. Dieu a préparé pour chacun des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Nous ne pouvons pas rester immobiles. Nous ne pouvons pas vivre en disant « je suis sauvé, tout va bien », et puis rester là, les bras croisés, devant cette perdition du monde qui nous entoure. Non, nous sommes appelés à être témoins vivants, témoins de cette espérance qui est une consolation et qui est une bonne espérance parce qu'elle nous pousse à l'action. De quelle manière l'apôtre Pierre, ou plutôt dans quelle direction l'apôtre Pierre nous invite à être actifs ? Il nous dit cela en 2 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. » C'est assez surprenant de quelque part d'entendre l'apôtre nous dire affermir notre vocation et notre élection. Deux choses qui dépendent de Dieu et de sa souveraineté absolue. C'est lui qui nous adresse une vocation, c'est lui qui nous a élus. Et d'une manière très intelligente, le Saint-Esprit, enfin, évidemment c'est le Saint-Esprit, inspire à l'apôtre Pierre le fait que nous devons nous affermir dans cette vocation et dans cette élection. Alors réfléchissons ensemble, mes frères et sœurs, à cette volonté de Dieu, que cette année nouvelle qui nous tend les bras soit l'année où nous allons, peut-être plus qu'avant, réfléchir à comment affermir notre vocation et notre élection pour la gloire de Dieu. Amen. Thank you.